Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Je suis encore votre animatrice Audrey et bien entendu je suis avec l'incroyable, l'unique, la transcendante Catherine.
Yeehaw!
D'accord!
She'll be coming round the mountain when she comes.
Écoutez, depuis que maintenant on vous raconte cinquième rang, on est dans un mood de country.
J'écoute toujours cette cantine. Je l'aime beaucoup.
C'est la préférée
qui
de
s'en
ton
vient
fils.
Autour de la montagne avec ses six chevaux. Là. Qu'est-ce qui se passe?
C'est Dieu!
Puis Dieu est une femme.
Oui.
C'est donc bien fun.
Ben là,
God duh. Is a woman. Ariana Grande l'avait dit.
Ouais. Alors, nous sommes à la deuxième partie de notre social experiment.
C'est comme le Stanford ouais. Prison Experiment.
Exactement.
Mais il y a personne
avec
qui
moins
fait rentrer les affaires dans le péteux.
Mais je voulais pas t'en parler, mais...
Non!
Ben non, on est correct.
Ben non. Fait que... C'est correct de se rentrer des affaires dans le péteux aussi.
Ben oui.
Ben ouais.
On l'a dit dans notre épisode, mon dernier épisode, que c'est... ça aide à voir la vie sous une nouvelle perspective.
À boire du café sans cœur.
Oh! Alors, voilà, c'est la deuxième partie de ce social experiment qui est des épisodes un petit peu plus courts, splittés en deux.
Mm-hmm.
Comme...
Speaking span.
Comme Oppenheimer a splitté l'atome, nous autres, on va splitter des épisodes de podcast.
Christopher Nolan, il aurait dû splitter son film en deux.
Oh!
Puis qu'on voit jamais la deuxième partie.
Oh!
Parce que c'était trop long pour rien!
How dare
c'est
you!
Tellement long!
How dare you!
C'est tellement long!
Je tiens à dire que Catherine puis moi, on a été le voir ensemble, Oppenheimer.
Oh my god!
Puis on a eu le même move qu'ils nous ont donné des pailles en carton pour nos liqueurs. Puis on a pensé à enlever les pailles de
oui!
nos liqueurs entre chaque gorgée.
Oui, c'est ça. On l'a tiré au complet pour qu'elle sorte toute du verre.
Pour pas se ramasser avec de la pâte.
C'est comme ça, dure 3 heures, là. Faut qu'on se prépare, là.
On est prête, on est prête.
Oh, oui.
Fait que nous sommes à la partie 2 du meurtre sordide de Isabelle Bolduc. Ouais. Mais avant, comme d'habitude, nous allons vous recommander du café.
Un café particulier.
Un café particulier. Alors, le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est le café Deadly Grounds. Le torréfacteur, c'est Deadly Grounds, pardon. Et le café, c'est Dark and Deadly. C'est un café qui nous a été offert par une charmante auditrice pendant notre crime de belle soirée qui a eu lieu en novembre dernier. Alors, merci infiniment, chère auditrice, pour ce cadeau dont nous nous régalons aujourd'hui. Alors, ça dit que c'est 100% gourmet Arabica coffee, et ça dit que c'est coffee to die for. Et c'est un café avec une belle étiquette avec des petits pieds de cadavres.
Des petits pieds de cadavres brûlés, puis un feu.
Écoute, c'est évocateur le matin.
Mm-hmm.
Alors, voilà, c'est ce qu'on est en train de boire. Et là, Catherine et moi, on ne s'entend pas. Mais vous savez que moi, j'aime les cafés de torréfaction foncée et pas. Catherine, moi, je trouve que c'est vraiment un bon café qui a un goût vraiment de café bien torréfié, un peu comme dans les diners.
Mm-hmm.
Catherine n'est pas d'accord.
Moi, je trouvais que ça goûtait un petit peu le vieux Butch. Mais je dis ça avec beaucoup d'amour parce que hier, je l'ai testé d'une manière différente. Je l'ai fait infuser à froid. Et en le faisant infuser à froid, eh bien, tout le côté ça goûte la vieille nicotine a complètement disparu. Et là, ça goûtait juste comme le rôti. Oh. Mais le meilleur rôti.
Qu'on appelait aussi des toasts.
Des toasts dans le temps. C'est une très bonne... Ça goûtait comme une très bonne rôti.
Une rôti au coucou.
Fait que je pense qu'il fallait juste que je trouve la bonne façon de le préparer. Mais les premières fois que j'ai goûté à ça, moi et mon chum, on était d'avis que ça goûtait un petit peu comme un cendrier.
Et là, je suis comme, quand est-ce que vous avez léché un cendrier la dernière fois? Tu m'en avais pas parlé.
Ah! C'est notre kink.
Oh. Alors.
Oui.
Sans plus attendre, parce que je suis sûre que non. Les gens ont hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé.
Tout le monde a hâte de pogner une heure pendant le procès des trois trucs.
Tout le monde, on prend notre petite couverture, notre couverture pesante, on la met sur nos genoux, on prend un petit chat, on lui fait des petits becs.
On lui dit qu'on l'aime.
On lui dit qu'on l'aime fort, fort, fort.
Prenez votre chat par la patte. Ah oui, la patte.
Tu vas encore mêler tes étudiants.
Ben c'est ça, comme les chevaux qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de bras et de jambes, ils ont juste des pattes.
Les oiseaux, ils ont des ailes.
Les oiseaux ont des ailes et des pattes.
Ils ont des ailes parce qu'ils n'ont pas de fesses. Ils ne peuvent pas s'asseoir.
C'est vrai.
Alors... Je te passe le micro.
Oui, merci.
Même si on a chacune un autre, je te passe quand même.
Ah, merci, c'est gentil.
Le micro.
Rebonjour la gang, ici Catherine.
Yeah.
Bienvenue, installez-vous confortablement, on va commencer sous peu. Donc, comme annoncé au dernier épisode, à partir de maintenant, je vais essayer de... Ben là, j'essaye maintenant tout de suite, puis là, si vous haïssez ça pour en mourir, dites-nous-les, n'attendez pas à votre propre vie. On va arrêter de le faire, c'est correct, calmez-vous. Mais donc, j'ai décidé de scinder ce cas en deux pour vous offrir un épisode plus court et peut-être plus digeste, qui sait, mais toujours aussi pertinent. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est parfait.
Ben, c'est parfait.
Digeste, alors, c'était cet adjectif qui me faisait bien rire.
Ben, ça se digère plus facilement.
Ben oui,
45 minutes de crime à travers la gorge que 2 heures. Donc, c'est ça l'idée derrière ça. Ben, donc, aujourd'hui, je vous offre la deuxième et dernière partie de l'histoire du meurtre d'Isabelle Bolduc. Mes sources sont les mêmes que la dernière fois, une pléthore d'articles de la Tribune. Et dans cette partie-ci, je vais vous raconter avec des détails dégueulasses, questions qu'on s'insurge bien comme faut, ce qui est arrivé à Isabelle. Fait qu'il y a trigger warning d'agression sexuelle puis de violence contre les femmes. Il y a surtout beaucoup de pognage de nerfs.
D'accord.
Donc, quand nous nous sommes laissés la dernière fois, chers auditeurs et auditrices, la police de Sherbrooke venait de procéder à l'arrestation des 3 hommes supposément responsables du meurtre d'Isabelle Bolduc. C'était Marcel Blanchette, 49 ans.
Commandant.
Jean-Paul Bainbridge, 25 ans. Et Guy Labonté, 29 ans. Le premier a l'air de quelqu'un qui a vu trop de choses dans sa vie et dont le regard est complètement vide. Jean-Paul Bainbridge a l'air de Victor Crum qui fait du meth. Et Guy Labonté a une coupe Longueuil. Et tu te douterais pas que, dans le fond, c'est possiblement un sale tueur.
Un sale.
Les 2 derniers ont été livrés à la police par Blanchette, on s'en rappelle, qui n'avait pas tant de colonnes et qui a été très willing de livrer tout le monde à la police, qui était déjà en arrestation aussi, on s'en rappelle.
Parce qu'il voulait avoir ses bros avec lui en dedans.
On va voir comment ça turn out pour eux autres, ça!
Partez en dedans!
Bon, fait que Marcel Blanchette était déjà en état d'arrestation pour l'enlèvement et l'agression sexuelle de la pauvre Manon Saint-Louis, la livreuse de médicaments du Family Prix. C'est là qu'on est rendu. Fait qu'après avoir livré les noms de ses complices à la police, Marshall Blanchette doit comparaître au palais de justice de Sherbrooke pour les chefs d'accusation concernant ce qui s'est passé avec Manon Saint-Louis. Fait que enlèvement, séquestration, agression, etc. En sortant du poste de police, Blanchette croise l'ancien chum d'Isabelle Bolduc, Jocelyn Simard. Et Jocelyn le reconnaît. Apparemment, les 2 hommes se sont déjà croisés à de nombreuses reprises dans un dépanneur alors qu'ils habitaient dans le même secteur. On apprend aussi que Blanchette y a été vue à de nombreuses reprises à l'auberge royale où travaillait Isabelle. En croisant le pauvre Jocelyn Simard, Blanchette lui a dit qu'il regrettait ses gestes. Il tremblote,
mange un char.
Il a les larmes aux yeux.
Mange un char.
Il est ensuite envoyé devant le juge où Blanchette est, selon les journaux, et je cite, « visiblement dépassée par les événements ». Et la petite parenthèse éditoriale, ça tombe bien parce que moi aussi j'avais les larmes aux yeux et j'étais visiblement dépassée par les événements quand j'ai lu les détails de ce qu'ils ont fait à Isabelle Bolduc. On va en parler plus tard. Entre-temps, on va aussi parler de Jean-Paul Bainbridge et Guy Labonté. Qui sont-ils? Quand Blanchette livre le nom de ses complices à la police, la
peux-tu
police...
Peux-tu appeler un Uber pour mon chat pour qu'il vienne en rejoindre ici?
Je peux se le tenir dans tes bras. Tiens pas le mien, il va te griffer.
Ouais, je sais, c'est pour ça que je connais, je veux pas le tien.
Non, il est zéro réconfortant. Fait que quand Blanchette livre ses complices à la police est zéro surprise. Bainbridge et Labonté sont déjà connus des autorités en raison de leurs antécédents très violents.
Qu'est-ce qu'il faisait dehors, ce monde-là?
En 1993, donc 3 ans auparavant, Bainbridge a été condamné à une peine de 30 mois de prison pour une agression sexuelle commise sur une petite fille de 13 ans.
30 mois.
Lui en avait 22.
30 mois.
30 mois.
C'est plus une claque ses poignets que ça.
30 mois. En 1990 et 91, il avait aussi été condamné à 30 jours et à 3 mois, respectivement, de prison pour 2 affaires d'entrée par effraction et de menace de mort avec bris de probation. Fait que rendu à l'été 96, il a purgé sa peine et il a maintenant atteint sa libération totale.
Totale!
Guy Labonté, en revanche, il est encore en libération surveillée au moment du meurtre d'Isabelle Bolduc.
Il n'est pas très surveillé.
Il a un lourd casier judiciaire pour violence, vol qualifié et entrée par effraction. Puis Labonté, contrairement à Marcel Blanchette, qui shake et pleure et essaie de faire pitié peut-être, ou est vraiment dépassé par la situation, on ne sait pas, on ne peut pas y prêter les intentions. Mais Labonté, lui, quand il comparait devant le juge, il n'a pas l'air troublé pantoute de se retrouver dans les tribunaux. Comme s'il s'attendait à ce que ça arrive à un moment donné, tu sais.
Oh, Mondays.
Au contraire, il a un air défiant, arrogant et garde la tête haute, pour citer les journaux.
Oh.
Oui. Il y a un procès qui s'organise. En périphérie, il y a plein d'affaires qui sont en train de découler de la mort d'Isabelle Bolduc. Des affaires le fun, puis des affaires pas le fun. Ben, je veux dire, pas des affaires le fun, puis des affaires pas le fun, mais tu sais, il y a des affaires positives, avec des répercussions positives, et il y a des affaires étranges qui se passent. D'abord, il y a une résidente de Sherbrooke, Pierrette Michaud, qui est la propriétaire d'un club vidéo, qui lance une pétition suite à la mort d'Isabelle Bolduc pour faire rétablir la peine de mort au Canada.
Non, madame, non.
Selon elle, la société ne devrait pas avoir à gérer, et je cite, « des criminels irrécupérables qui vivent dans des prisons devenues des hôtels de luxe, qui plus est, grâce aux fonds publics. »
Non, non, madame, non, non, non.
Voici sa pétition, je vais vous en lire le texte. Oh! « Serez-vous la prochaine victime ?» Nous, femmes et hommes saints d'esprit, avec deux P à esprit, exigeons suite au meurtre révoltant d'Isabelle Bolduc et du couple Beaulieu-Parent, dont je vous avais parlé, c'est le double homicide de Disraeli, par des maniaques plus que sadiques, que le gouvernement mette ses culottes une fois pour toutes et rétablisse la peine de mort.
Plus
nos
que
prisons
sadique.
Étant devenues, nos prisons étant devenues turbo-sadiques. Nos prisons étant devenues des hôtels de luxe, nous ne pouvons continuer de payer pour dorloter de tels maniaques sans plus de conséquences pour eux que d'être privés de liberté pour un temps limité.
As-tu récemment voyagé dans une prison, madame?
La peine de mort est la seule justice pour ces criminels crapuleux. Citoyens et citoyennes, regroupons-nous afin que ces crapules qui ne peuvent accepter aucune règle de société soient condamnés à la mort.
Non.
Politiciens, la population en a plus qu'assez et exige que la peine capitale soit rétablie au plus tôt. Des citoyens et des citoyennes écœurés et révoltés du système judiciaire. C'est signé ça.
Non, c'est pas la réponse.
Il y avait une autre faute aussi que le journal n'a pas signalé.
Œil pour œil, dent pour dent, j'y crois pas.
Ouais, puis je pense qu'on devrait mettre aussi un quota sur la quantité de fois que tu peux répéter « crapule, crapuleux, crapule, crapuleux » dans un texte.
Ouais, à un moment donné, il faut que tu switches pour « ripou ».
T'es obligé, tout ouais. Croche. Mais donc, Pierrette Michaud, sa pétition, ça fait jaser beaucoup. Et elle parle aux journaux. Elle affirme que l'idée de lancer cette pétition lui est venue après le double meurtre
d'Israeli.
Dans un rêve.
C'est Dieu!
Comme Twilight! Mais non, c'est après le double meurtre d'Israeli dont je vous ai parlé tantôt. Je cite encore Pierrette. « Je pensais à ce crime absolument horrible et je regardais l'accusé, injurié par des curieux, qui leur répondaient de ne pas l'achaler. Je me suis dit que la société ne pouvait tolérer ce genre de criminel maniaque, sadique, crapuleux, qui ne respecte pas les règles de société. » Fin de la citation.
Ouais, tu te ris de moi parce que je suis trop intransigeant.
Ouais, c'est ça, les crapuleux.
Hey.
Elle a donc eu l'idée de lancer sa pétition.
Les crapauds crapuleux.
Les crapauds. Non, laisse les crapauds en dehors de ça!
Les crapauds crapuleux et crapoutes.
Ils n'ont rien fait, les crapauds! Donc, elle a donc eu l'idée de lancer sa pétition, j'imagine, en direct de son club vidéo. Et en une journée, elle a récolté 250 signatures.
Elle l'a fait jouer sur les TV. Peut-être, joue tout le temps des films d'Adam Sandler.
Oh, peut-être! Puis là, elle est beaucoup sollicitée par les médias à cause de ça. Puis elle se dit prête à télécopier sa pétition pour qu'elle puisse circuler aux quatre coins du Québec.
Mais elle l'a envoyée par fax!
Yeah! Pierrette dit aussi que cette pétition, elle la lance parce qu'elle pouvait ressentir chez ses clients, suite à la mort d'Isabelle, une volonté de vengeance. Justement, le journal publie le 16 juillet un vox pop sur la question de la peine de mort. En voici des highlights. À la question, a-t-on raison de relancer le débat de la peine de mort?
Oui.
Premièrement, Jean Vaccino, un vieux monsieur d'Orford, répond. Absolument. J'ai toujours été en faveur de la peine de mort, surtout avec ce qui arrive. Je peux comprendre les personnes qui sont contre, mais jusque-là, ils n'ont rien prouvé. Ce à quoi je demande, qu'ont-ils à prouver? Qu'avons-nous à prouver quand on est contre la peine de mort? OK. Après ça, il y avait aussi Gloria Sheda.
C'est
de,
mal.
C'est mal.
Tuer des gens parce qu'ils ont fait des affaires pas fines. C'est mal.
C'est mal. Bon, il y a aussi Gloria Sheda qui, à la même question, répond « Je crois que vous devriez avoir la peine de mort au Canada. Les personnes qui tuent parce qu'elles ont un problème mental doivent être placées en institution et bien gardées. Pour les tueurs d'enfants, pas de pardon. »
Elle n'était pas un enfant.
C'est
l'enfant de quelqu'un, mais je veux dire, oui, en termes d'âge.
Mais je veux dire, tout le monde est l'enfant de quelqu'un dans la vie, là,
oui,
sauf les clones
tous,
de Raël.
On est tous des enfants de Dieu.
On est tous des enfants de Dieu, mais aussi elle dit, OK, on devrait avoir la peine de mort. Les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont des enjeux de santé mentale devraient être mis dans des institutions, mais ça, c'est pas la peine de mort. Mais on devrait tuer les tueurs d'enfants. Je sais pas, tu sais, je veux dire, comme tant qu'il y a, tu te fais approcher pour avoir ta photo dans le journal avec la ville où t'habites, puis ton nom, puis tout, là. C'est comme, j'aimerais ça avoir une question un petit peu moins hot ticket que ça.
Ouais.
Fait que, et finalement, Guillaume Lessard-Savoie de Sherbrooke répond « Oui, plusieurs criminels savent qu'il n'y a pas de peine de mort. Alors ils passent 3-4 ans en prison, puis ils recommencent, ils sont morts de rire, ils ne se domptent jamais! » Fait que l'opinion populaire semble être à la violence en réponse à la violence. Ne vous inquiétez pas. Il y avait aussi des opinions plus mitigées, peut-être raisonnables, on ne sait pas. En tout cas, Hugo Guerbavaz de Sherbrooke répond « C'est bien qu'on en parle. Il y a des arguments pour et des arguments contre. On peut se dire que la peine capitale coûterait moins cher à l'État, mais personnellement, je trouve qu'elle est immorale. Parle-moi de ça, une réponse nuancée.
Hey! »
Et finalement,
bravo.
Isabelle Doré de Sherbrooke répond « C'est bon que le débat soit rouvert parce qu'il y a tellement de cas de meurtre ces temps-ci. » Je sais que dans certains États, la peine de mort est en vigueur, mais je ne sais pas s'il y a plus ou moins de violence. Bonne question!
Bonne question, madame!
Pour le fun, je suis allée faire une petite recherche.
Puis,
selon le US DOJ, le Department of Justice,
oh yeah.
Il n'y a le aucune Doge. Preuve que la peine de mort dissuade de commettre des crimes.
Ah, oh, tu m'étonnes!
Ouais, c'est une étude qui date de... Attendez, je vais vous le dire, je l'ai dans mes notes. C'est une étude qui date de 2013... Oui, c'est ça. C'est une étude qui date de 2013. Puis la citation directe, c'est « There is no proof that the death penalty deters criminals. » Fait que, Isabelle, c'est une très bonne question. Et la réponse est...
Non. Mais aussi, les gens qui disent comment ça va coûter moins cher à les tests, parce que c'est vraiment long être sur le death row.
Oui.
C'est un très long processus. C'est pas... Tu sais, je pense que c'est parce que les gens, ils ont l'image comme du cinéma, puis le seul film à propos du death row qui me vient en tête, c'est Dancer in the Dark, qui est pas vraiment un bon exemple.
Avec Björk?
Oui, de Lars von Trier.
Ouais. OK, non, je sais pas, okay. Je pensais à Ligne verte, mais OK.
Et on death row pendant comme 2 minutes.
Ouais.
Puis la Ligne verte, mais comme c'est un processus qui est très long, là. Il y a des gens qui ont... que ça va faire 20 ans là, qu'ils sont on death row puis qui attendent parce que c'est un long processus, il peut avoir plusieurs appels. C'est pas mieux.
Non, c'est pas mieux. Puis, justement, Marcel Bolduc, il lui a posé la question parce que, je veux dire, le nom de sa fille, il est dans la pétition, tu sais.
Ouais.
Puis lui, il était comme « Non, moi, je suis pas pour la violence, pour régler la violence, parce que, tu sais... »
Elle va pas revenir.
Exécuter un innocent de trop, t'sais, un innocent, ouais. Ce serait déjà un innocent de trop. T'sais. Fait c'est que ça. Le risque, je l'ai très bien formulé, mais vous comprenez de quoi je parle. Je veux dire, le risque qu'on fasse erreur sur la personne, il y en a eu des erreurs judiciaires au Canada.
Oui.
Fait que, tu sais ça, le risque qu'on fasse erreur sur la personne puis qu'on exécute quelqu'un qui est pas coupable, ben ça, pour Marcel Bolduc, c'est plus important que les bénéfices qu'on pourrait en tirer.
Bon, parle-moi de ça, quelqu'un qui utilise sa tête.
Je l'aime, Marcel, bon Dieu, qu'on va en reparler aussi.
C'est cool.
Pendant ce temps-là, justement, j'avais dit, il y a des affaires le fun qui se sont passées, puis des affaires pas le fun. Mais la pétition, c'est comme dans la catégorie des affaires pas le fun.
OK. Qui se passe. Mais c'était pas le fun.
Mais l'affaire le fun, c'est que, drette, pour vrai, là, le jour même qu'ils ont appris qu'Isabelle était morte, son père a mis sur pied une fondation pour honorer sa fille, s'attaquer à la question des libérations conditionnelles et pour, je le cite, « sécuriser les femmes qui marchent dans la rue ». C'est la Fondation Isabelle Bolduc. Ce qu'elle propose, c'est de travailler en collaboration avec le CALAC, qui est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, et de mettre sur pied un comité de surveillance civile au sein de la Commission des libérations conditionnelles, ce qu'ils vont éventuellement réussir à faire pour vrai.
Oh.
Au nom de sa fondation, Marcel Bolduc contacte Pierrette Michaud pour qu'elle cesse de faire circuler sa pétition, parce que lui, il est contre la peine de mort.
Puis, je ne mets pas des mots dans la bouche, madame.
Non, c'est ça. Puis là, Pierrette Michaud, elle dit non. Puis là, Marcel Bolduc, il pose la question dans les journaux, puis il dit « c'est pas en créant une justice en parallèle qu'on va venir à bout du problème ». La vraie réponse, il est vraiment selon proactif. Lui, c'est l'appel au calme. Je sais, c'est un homme vraiment admirable. Puis ça... Je suis pas allée creuser, parce que je veux dire, quand j'ai creusé dans le passé de Pierre-Hugues Boisvenu, j'ai appris que, tu sais, il avait été sénateur, il y avait eu des propos controversés, justement, sur la question de la peine de mort. Je suis pas allée creuser, mais dans ce que j'ai lu sur Marcel Bolduc, il y avait rien de parfaitement scandaleux, fait que je pense qu'on peut tous l'aimer.
OK.
OK, bon. Fait que, selon lui, la vraie réponse, c'est l'appel au calme. À la tribune, il dit « il faut lancer un appel au calme. Si un seul innocent était pendu après le rétablissement de la peine de mort, ce serait déjà un innocent de trop. Si c'était un membre de votre famille et qu'il était pendu alors qu'il était innocent, comment réagiriez-vous? C'est vrai qu'Isabelle est une innocente qui est morte gratuitement, mais il ne faut pas réagir avec colère, on ne peut pas régler la violence par la violence. » Fin de la citation.
Wow.
Wow. Malgré le peu de temps qui s'est écoulé depuis la fondation de la fondation, tu sais, on est genre le 16 juillet, son corps a été trouvé le 7, fait que ça fait un petit peu plus d'une semaine. Donc, la fondation Isabelle Bolduc a réussi à récolter plus de 15 000 $. Puis c'est Marcel qui run ça, avec sa fille Julie, puis aussi avec Jocelyn Simard, l'ancien chum d'Isabelle, qui s'implique beaucoup dans les levées de fonds de la fondation. Et puis là, il y a un kerfuffle. Je ne savais pas comment écrire ça. J'ai écrit kerfuffle, mais c'est pas ça.
C'est un kerfuffle.
Un kerfuffle entre la Fondation Isabelle Bolduc et Pierrette Michaud. Pierrette Michaud parle au téléphone avec Jocelyn Simard. Elle lui offre ses condoléances et il lui répond qu'elle va recevoir une mise en demeure d'un huissier parce que sa pétition mentionne le nom d'Isabelle et qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. La pétition nuit à la mission de la Fondation, selon Jocelyn. Pierrette a peur et lui répond qu'elle va la retirer, sa pétition, c'est correct, là.
J'ai compris.
Et puis là, on est dans un classique « he said, she said » parce que ben, les journaux vont voir Jocelyn Simard, puis Jocelyn Simard est comme « non, c'est pas ça qui s'est passé pantoute ». Il a pas dit que la pétition pouvait nuire à la Fondation, mais plutôt que Isabelle était pacifiste puis contre la peine de mort. Elle aurait pas voulu que son nom soit associé à ça. Puis il aurait été question du huissier, mais il avait pas fait des menaces. Il avait dit « on veut que son nom soit retiré de la pétition ». Pas arrête de faire tout ce que tu fais, sinon on lance la police après toi. Fait que dans tous les cas, la pétition, elle est mise sur la glace.
D'accord.
Indéfiniment. Pendant ce temps, les accusés de tantôt n'ont pas beaucoup de fun en prison.
Oh,
surtout
non.
Jean-Paul Bainbridge.
Hashtag sad.
Apparemment, il se fait brasser la cage, comme disent les journaux, par les détenus de la prison de Sherbrooke, au point où il doit être transféré à Parthenay pour sa propre sécurité et gardé en isolement. La Bonté et Blanchette, eux, sont toujours à Sherbrooke. Fait que là, ta théorie de « il voulait avoir ses chums en prison!
Oh. »
Jean-Paul Bainbridge, ça n'a pas marché pantoute. Fait qu'ils l'ont enchippé à Parthenay.
Ça, c'était le plus jeune, hein?
Ouais. La Bonté, il est dans un secteur protégé de la prison de Sherbrooke. Puis Blanchette, pendant ce temps-là, il est en psychiatrie au Centre universitaire de santé de l'Estrie. Il doit être évalué par ordonnance du tribunal. Puis rapidement, il est jugé apte à subir son procès. Ils disent que c'est juste une chiffre molle qui braille quand elle se fait arrêter. Non, mais c'est ça, sérieusement.
Non, il a juste oublié sa colonne chez lui.
Ouais, c'est ça. C'est juste un petit peu un mollusque, là. Fait qu'il est apte à subir son procès dès le 20 juillet. Là. C'est statué très vite. Puis les procédures sont remises en septembre. Son avocat a entre-temps quitté le dossier pour se rediriger du droit criminel au droit des affaires. Fait que là, faut qu'il trouve un nouvel avocat, tu sais.
Non, maintenant, il veut juste défendre des buildings.
Mais c'est vrai que si je me ramassais avec ce cas-là devant moi, je serais comme...
Ah oh non, maintenant, moi, je défends...
Je pense que ceci est le clou de ma carrière.
Je défends des sapins. Contre des gens tués.
Un bon de sapin, moi! Exactement. Mais je pense que j'en parle pas dans mon script, mais je tiens à le dire. Il y avait un moment... que moi, j'ai trouvé assez marquant. Justement, une des fois où Marcel Blanchette, était transporté, genre, du poste de police à la prison ou de la prison à la psychiatrie ou whatever, il y avait Marcel Bolduc qui est allé le confronter. Puis il y a des photos de lui. Il pointe Marcel Blanchette avec son doigt. Marcel Blanchette est assis à l'arrière d'une auto de police, puis la vitre est un peu baissée. Puis selon la légende dans les journaux, ben Marcel Bolduc, il dit « Regarde-moi, c'est moi le père de la fille que t'as tuée. » C'est un tough, là. Puis pendant ce temps-là, ben Marcel Blanchette, il braille. C'est comme les photos qu'on avait du tueur de Julie Boisvenu.
Cave.
Quel homme, Marcel Bolduc, sérieux. Fait que le premier dénouement judiciaire dans le meurtre d'Isabelle Bolduc se produit au début septembre. Parce que, justement, ben, le 4 septembre, c'est le début du procès de Marcel Blanchette et il plaide coupable.
Il y a une autre option.
OK, il plaide coupable au meurtre au premier degré d'Isabelle, donc avec préméditation, et à l'enlèvement et agression et tout ça de Manon Saint-Louis. Et il écope de 2 peines d'emprisonnement à vie. Le juge de la Cour supérieure, Paul Marcel Bellavance.
Mais vas-tu lui faire ces peines-là, dis-je, entre mes dents?
M'a te le dire enfin.
OK.
Pour ça que j'ai creusé pour savoir il était où maintenant. Peut-être que non, on sait pas. Donc, le juge de la Cour supérieure, Paul Marcel Bellavance, il y a trop de Marcel dans cette histoire-là, offre à Blanchette la possibilité de s'exprimer avant de recevoir sa sentence. Blanchette dit, et je cite, « Ce que je voudrais dire ne ramènera pas la victime. Moi, ma vie est finie. Si je le fais, c'est parce que j'ai entrepris un chemin spirituel. J'ai un peu de foi. Aussi, je demande pardon. » Puis là, dans les journaux, il y avait une parenthèse, puis ça disait « Des sanglots ont entrecoupé la déclaration. » Donc, il demande pardon à ceux qui ont souffert ou qui souffrent encore à cause de moi. Il n'y a aucune excuse pour un geste comme ça. Je n'avais pas toute ma tête. Je m'en remets à Dieu. » Fin de la citation. Selon son avocat, Maître André Côté, Blanchette entend plaider coupable depuis le tout début. Le criminaliste croit à une réhabilitation possible pour Blanchette. Il dit « Je ne sais pas si ce sera toujours derrière les murs, auprès de gens qui ont traversé des moments comme les siens, mais je crois que c'est possible pour lui. » Fin de la citation. Par la suite, Blanchette est appelée à témoigner contre Bainbridge dans son enquête préliminaire. Puis au début, il refuse parce qu'il a peur de Bainbridge. Puis éventuellement, ben, il est forcé par la cour à aller témoigner parce que c'est lui qui l'a stoulé après tout. Et il accepte de le faire à huis clos. Puis parce qu'il accepte de le faire à huis clos, eh bien, ça va prendre longtemps avant que les détails du meurtre paraissent dans les journaux. Et c'est maintenant, justement, que je vais vous raconter les détails sordides et vraiment dégueulasses et vraiment gratuits du meurtre d'Isabelle Bolduc. Oreilles sensibles à s'abstenir. Trigger warning, agression sexuelle, violence physique. Skipper un bon 30 secondes.
OK, je vais aller donner des becs à ton bobo.
Oui. Non, il fait dodo encore.
Oh.
OK, en sortant du Fleury-Bar, au petit matin du 30 juin, Isabelle a été accostée par Jean-Paul Bainbridge et Guy Labonté. Jean-Paul Bainbridge avait consommé de la drogue et de l'alcool, puis il était à la recherche d'autres drogues et surtout d'une fille à la demande de Marcel Blanchette. Bainbridge a forcé Isabelle à entrer dans sa voiture et l'a amenée à l'appartement de Marcel Blanchette. Elle a été séquestrée là pendant environ 18 heures, durant lesquelles elle est agressée sexuellement à plusieurs reprises par Blanchette et Bainbridge. Et à la fin de sa captivité, les deux hommes disent à Isabelle qu'ils vont la reconduire. Ils la mettent dans la voiture et la transportent jusqu'au boisé où son corps est éventuellement retrouvé. Ils la font sortir de la voiture. Pendant que Bainbridge conduit, ben, Blanchette a essayé d'étrangler Isabelle, mais il n'a pas été capable. Fait que quand il arrive là-bas, ils la font sortir de la voiture en la tirant par les cheveux. Blanchette commence à lui donner des coups de tuyau sur la tête. Et finalement, Bainbridge lui donne aussi des coups de tuyau. Puis une fois qu'elle est morte, les hommes transportent son corps une quinzaine de mètres et l'abandonnent là.
Mais il est où Guy pensant là?
Ben Guy était là au début. Puis Guy, il n'y a rien qui a prouvé qu'il avait participé aux agressions sexuelles ou qui était présent quand elle s'est fait tuer. Fait que je te laisse en déduire qu'il y a, eu une peine différente des autres.
C'est juste tellement terrorisant.
Ouais.
Puis j'arrête pas de penser au film La Sauce on the Left.
Ouais.
Que c'est comme pas mal ça l'histoire.
Ouais.
Puis on dirait que ce film-là, il est comme tellement... comme Tu sais, c'est tellement cruel.
Ouais.
Puis horrifique ce qui s'y passe. Puis là, comme trigger warning, là, c'est un des premiers films de Wes Craven.
Mm-hmm.
Il a été refait au début des années 2000, me semble, c'est inspiré par Rites of Spring de Ingmar Bergman. Trigger warning, allez pas regarder ce film-là si vous êtes pas, si vous avez pas des nerfs d'acier.
Ouais, non, c'est pas...
C'est ça, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui se font enlever après un concert rock et elles se font agresser de façon particulièrement sadique et la famille d'une des deux jeunes filles va se venger sur les salles. Mais c'est comme, c'est quelque chose de tellement horrifique que comme présentement de me faire raconter quelque chose comme ça qui est arrivé pour de vrai, c'est comme, on dirait que j'arrive pas à le... On dirait que j'arrive pas à le procéder. C'est ouais. comme trop cruel.
Ben, c'est pour ça que je vous avais dit que j'avais commencé à faire mes recherches, puis que j'avais arrêté parce que j'étais comme c'est too much, puis que j'ai fait mon affaire sur le KKK puis l'église Notre-Dame, là. Parce que, je veux dire, si on compare, il n'y a pas de comparaison à faire, mais l'affaire, c'est que c'est une série que je fais parce que les pères de Julie Boisvenu, Isabelle Bauduc, Cathy Carretta puis Julie Surprenant ont fondé l'AFPAD, c'est ça qui m'a lancée sur cette lignée. Ben, Julie Boisvenu, elle a été kidnappée, agressé puis tué en l'espace de comme 2 heures par un gars. Puis ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, puis c'est tellement cruel d'y avoir dit « Ouais, ouais, on s'en va te reconduire. » Puis là, pendant que Bainbridge, il conduit le char, Marcel Blanchette, il essaie de l'étrangler. Elle savait qu'il s'en allait pas reconduire pour.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ouais. Puis qu'il l'ait battu à coups de tuyau.
Quand ils ont arrêté Marcel Blanchette, il y avait un gun. C'est tellement cruel. C'est tellement une façon longue et souffrante de tuer quelqu'un. Il y a aucune merci là-dedans, là, t'sais. Il y a aucune pitié, il y a aucune compassion humaine, y a rien pantoute.
C'est comme...
Puis c'est juste... Il disait aussi que Jean-Paul Bainbridge, là, c'est lui qui a donné les coups en deuxième. Il a continué à lui donner les coups quand elle était morte. T'sais, c'est d'une cruauté...
Ben, des coups sans nom, tuyau là. En métal, sa tête...
Au bout de 3-4, c'est fait, là.
Pas longtemps.
Non, non, c'est ça. Ils se sont acharnés sur elle, les deux. Puis là, après ça, ils sont retournés chez eux, puis une semaine après, Marcel Blanchette, il a kidnappé Manon Saint-Louis. Ça n'a pas de sens, là. C'est vraiment, justement, c'est la définition d'un crime sordide. Puis c'est dégueulasse, c'est ben trop gros pour rien. Puis là, on le sait qu'elle a souffert, tu sais.
Mais c'est moi, c'est toute
c'est
la terreur qu'elle a dû vivre.
Ouais.
Je suis sûre qu'elle savait là, qu'il allait pas la reconduire chez elle. Là.
Ouais.
Elle savait qu'il allait la reconduire à un endroit pour se débarrasser d'elle.
Puis à ce stade-là, ça faisait longtemps, là. Tu sais, c'était comme le lendemain d'ennui, 18 heures plus tard, là, qu'ils sont allés dans le champ. Fait que c'est comme... Ça faisait tout ce temps-là qu'il était gardé en otage puis agressé à répétition dans un esti d'appartement à Fleurimont, là. C'est comme...
Mais malheureusement, nos rappels, si vous faites enlever dans une voiture, faites tout ce que vous pouvez pour laisser des traces que vous avez été là.
Ouais.
Essayez de vous débarrasser de quelque chose qui est sur vous. Mordre aussi dans les... La portière, parce qu'il va avoir votre empreinte dedans.
Oui.
Griffer
oui,
vos agresseurs.
C'est ça, j'allais dire graffiner, en bon français, pour garder de l'ADN en dessous de tes ongles.
C'est dégueulasse à dire, mais c'est une manière d'essayer de savoir qu'est-ce qui vous est arrivé.
Puis là, tu sais, l'affaire qui est, entre gros guillemets, l'affaire qui est le fun là-dedans, c'est que justement, comme on l'a dit, Marcel Blanchette, il n'y avait pas de colonne, puis à la seconde où ils l'ont trouvé, tu sais, moi, je pense qu'il était sur un death wish, là, tu sais. Il était parti sur un rampage, puis il savait que ça allait finir à un moment donné. Parce qu'il a tout de suite passé au cash, puis il a pas du tout, il a pas livré les autres gars pour négocier. Il y a eu 2 peines d'emprisonnement à perpétuité. C'est 50 ans de prison, là. Tu sais?
Espérons-le.
Il est encore en prison aujourd'hui.
Ok, cool.
Bon, je voulais pas te le dire tout de suite, mais c'est ça. Il est encore en prison.
Hey.
Fait que... le 4 décembre, c'est le procès de Jean-Paul Bainbridge. Apparemment, à la dernière minute, il décide de plaider coupable. Peut-être parce que...
Il a vu qu'il y avait pas de way out.
Ouais! Fait que, tu sais, il y a eu tout le procès. Parce que, c'est ça, Marcel Blanchette, il a été appelé à témoigner dans son enquête préliminaire. Fait que là, j'imagine qu'à un moment donné, quand l'avocat, il a vu tout ce qui s'accumulait comme preuve, ben,
il a comme, peut-être... Okay, on va changer.
Au début, Bainbridge était peut-être pas convaincu de plaider coupable, mais il a fini par l'être. Fait qu'il a admis sa participation dans l'enlèvement, la séquestration et l'agression sexuelle d'Isabelle Bolduc. Il admet aussi sa participation à son meurtre, mais lui, il dit que c'est de manière non prémédité, fait qu'il plaide coupable à homicide au deuxième degré. Et finalement, en début avril 1997, Guy Labonté est trouvé coupable de séquestration, mais il est libéré des accusations de meurtre, de complicité d'après le fait et d'abus sexuels. Fait que Bainbridge a la prison à vie, puis, ben je veux dire 25 ans, comme on a ici, la prison à vie, puis Guy Labonté, lui, il a 5 ans. L'avocat de Bainbridge, en août, annonce que son client veut amener sa cause en appel parce qu'il n'y a aucune preuve de préméditation. Il pense qu'il n'a pas gagné parce que j'ai trouvé aucune trace de ça.
Mais il a plaidé coupable à deuxième degré.
Ouais.
Pourquoi tu veux recommencer?
I don't know. Mais je pense que ça aboutit à rien parce que ben, j'ai trouvé aucune trace de ça dans les journaux par la suite, puis lui aussi est encore en prison.
Good.
Alors, Guy Labonté demande sa libération conditionnelle en septembre 2000 et c'est refusé. Il est libéré de prison en mai 2002, à la fin de sa sentence. Entre 2002 et 2007, il est arrêté à 4 reprises pour des actes violents, mais apparemment jamais condamné, jusqu'à ce qu'il fasse des menaces de mort à une pauvre employée de la ville de Thetford Mines, ce qui lui mérite une peine de prison de 7 mois. Ensuite, quand il est ressorti de prison, il s'est fait pogner dans un drug bust en 2010, il a refait de la prison. J'ai pas réussi à trouver c'était quoi exactement, mais je pense que c'était des affaires de possession, parce que je sais que c'était un drug bust de coke. En 2017, il est libéré de prison de nouveau, puis en 2019, il y a encore des démêlés avec la justice en raison d'une chicane de voisins autour du pelletage des terrains durant laquelle il aurait proféré des menaces de mort. Il est arrêté la même année, c'est quelques mois à peine en fait, après, pour violence conjugale.
Ah ben
et
oui,
ensuite, je sais pas ce qu'il a fait de sa vie, et aujourd'hui, il a 56 ans et apparemment, il n'est pas en prison. En 2017, Jean-Paul Bainbridge a fait une demande pour avoir son droit à des sorties avec escorte. Je cite un article de Radio-Canada. Son agent de libération conditionnelle recommandait ses sorties sous escorte. Elle a expliqué qu'après quelques années d'inertie, les choses ont commencé à changer quand Jean-Paul Bainbridge s'est pris en main en suivant plusieurs thérapies et en prenant part à différents programmes. Il est parvenu à développer de l'empathie, à limiter ses intérêts sexuels déviants, il n'a jamais tenté de s'évader, n'a jamais eu de comportement violent ou hostile en prison. L'agente croit que des sorties structurées auraient permis de poursuivre un processus de guérison.
À limiter ses déviances sexuelles.
Oui. Dans un autre article, j'ai appris que Bainbridge demandait des sorties avec escorte pour se rendre au centre d'amitié autochtone visiter son fils, parce qu'apparemment, au moment du meurtre d'Isabelle Bolduc, sa blonde était enceinte. Ça sonne beaucoup comme le trou de pète qui a tué Julie Boisvenu aussi.
Oui.
La demande est refusée. Il renouvelle sa demande l'année suivante, mais là, le comité juge que celle-ci n'est pas recevable parce qu'elle n'est pas assez sentie. Fait que c'est bien le fun que son agent de probation a dit que oui, il a développé beaucoup d'empathie et
il
tout.
Il se masturbe juste 3 fois par heure maintenant au lieu
oui,
de 8.
Exactement, puis là, il a beaucoup de compassion pour les gens. Le comité qui
il
a lui
a développé
sa libération conditionnelle
sa
en 2018, il n'était pas d'accord pantoute avec ça. Fait qu'une chance qu'ils l'ont pas libéré la première fois, tu sais. C'est ça. Le comité juge que sa demande n'est pas assez sentie et que même s'il a fait des progrès, il demeure incapable de dire d'où vient sa criminalité. Et à cause de ça, ben, son risque de récidive est accru. Fait qu'il est pas vraiment en train de prendre ses responsabilités.
Il fait juste
d'admettre
faire
son problème.
Ce qu'il faut pour sortir.
C'est ça que le comité a jugé. En 2019, justement, fait que l'année suivante, sa cote de sécurité dans le pénitencier est augmentée après que des agents correctionnels aient découvert des objets interdits dans sa cellule de prison, soit du tabac et un cellulaire.
Ah ben oui!
Fait qu'il était-tu un détenu si modèle que ça? Peut-être pas. Et en 2023, Bainbridge obtient la libération, la permission, pardon, de faire des sorties avec escorte. Aujourd'hui, il a 52 ou 53 ans. Puis là, c'est là qu'il est encore. Il est encore incarcéré, mais il a droit de sortie avec escorte. Marcel Blanchette, lui aussi, a obtenu la permission de faire des sorties avec escorte en 2023. Il a aujourd'hui 76 ans et un cancer du sang. Mais Marcel Bolduc, qui était présent à toutes ces audiences de demande de libération conditionnelle, de sortie avec escorte et tout, Marcel Bolduc s'est dit très déçu de cette décision. Il était à sa 7e libération conditionnelle quand il a tué Isabelle, comme je vous ai dit. Selon Marcel Bolduc, il n'y a rien qui prouve qu'il ne pourrait pas récidiver malgré son âge. Effectivement!
Effectivement, c'est pas si vieux que ça!
Puis justement, la famille Bolduc là-dedans. En parallèle des procès de 96 et 97, un comité d'enquête a été mis sur pied à la demande de la Fondation, justement, pour enquêter sur la libération conditionnelle de Blanchette et Bainbridge au moment du meurtre d'Isabelle. Ce comité, bien sûr, a été mis sur pied à la demande de Marcel Bolduc spécifiquement et a conclu le 31 décembre 1996 qu'il y avait eu un certain laxisme dans la surveillance des deux coupables, ce qui est comme...
Quel euphémisme!
Très généreux, mais c'est ça!
Oh, un petit peu de laxisme!
Marcel Bolduc, par la suite, affirme qu'il considère poursuivre les services correctionnels. Il va le faire en janvier 1997, il demande une compensation de 2 millions de dollars et la famille règle hors cours en 2001. Fait que c'est le fun, les services correctionnels ont admis une partie de leur tort, parce que sinon tu règles pas hors cours. Mais par la suite, ben, Marcel Bolduc continue à mettre de la pression pour qu'il y ait des réformes dans le secteur des libérations conditionnelles et que leurs conditions soient resserrées, mais malheureusement pour lui, il ne semble pas y avoir eu de réformes considérables dans le milieu à ce jour. En passant, le bureau de services correctionnels a aussi enquêté sur l'étape, la maison de transition où Blanchette avait séjourné. Ben, apparemment, les deux autres aussi avaient séjourné là.
Ah ben...
Ouais.
Ah ben.
La commission a trouvé qu'il y avait eu des lacunes importantes dans la communication et dans les échanges d'informations, namely apprendre que Blanchette était retombée dans l'enfer de la drogue puis pas avoir averti son agent de probation. Ils ont aussi dit que la maison de transition surestimait sa capacité à faire de la réinsertion sociale, mais par contre, comme des bons fonctionnaires qui font leur job, puis c'est ça, le bureau n'a pas formulé de recommandations spécifiques à l'égard de l'étape. Fait qu'ils ont dit, il y a des gros problèmes dans la manière dont vous gérez ça, mais on n'a aucune idée comment vous pourriez régler ça, puis c'est pas à nous autres de faire ça. Et ça s'est terminé en queue de poisson, ce bout d'histoire-là. C'est décourageant, pareil, hein?
Non, mais je suis comme, voyons-moi, est-ce que combien de personnes vont devoir mourir, là?
Je sais pas. Mais je suis désolée pour le jab aux fonctionnaires, là. Vous faites très bien leur job, c'est juste ces fonctionnaires-là que je suis comme, hey, t'aurais pu au moins formuler des recommandations. Il me semble que c'est ça le but
c'est
de faire une enquête sur quelque
Gordon
chose.
Gordon Ramsay arrivait dans ton restaurant en disant, c'est dégueulasse, il y a de la pourriture partout, tabarnak, c'est ce que j'avais à dire, au revoir!
Bye bye, arrangez-vous! OK. En 2005, Marcel Bolduc s'est allié au père d'autres jeunes femmes disparues et assassinées pour créer l'AFPAD, dont je vous ai parlé tantôt. L'AFPAD, c'est l'Association des familles et des personnes assassinées ou disparues. Non, c'est l'association... c'est pas l'Association des familles pis des personnes assassinées. C'est l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues. Bon, vous aviez compris. Étrangement, son nom est plus sur le site de l'AFPAD. Y a-t-il eu des frictions avec les autres pères fondateurs? Je ne le sais pas. Mais, ben, à cause de ça, j'ai dû aller confirmer à comme 4-5 au place qu'effectivement, il avait été impliqué là-dedans, et effectivement, il a été impliqué là-dedans, et il est encore impliqué dans l'AFPAD. Je sais pas pourquoi il était pas listé sur leur site web. Mais, donc, c'est la mort de Julie Boisvenu qui m'a mis sur cette piste-là, je vous le rappelle. Fait que je veux réitérer que dans les prochains mois, je vais aussi vous parler de la mort des deux autres femmes dont les pères sont impliqués dans l'AFPAD, soit Cathy Caretta et Julie Surprenant. L'AFPAD, c'est un OBNL qui offre du soutien aux familles qui ont des personnes disparues ou assassinées pour les aider à briser l'isolement et à reconstruire leur vie. J'aimerais ça qu'on mette le lien de l'AFPAD dans la description de l'épisode parce qu'il accepte les dons. Fait que vous pouvez donner généreusement. Puis justement, reconstruire sa vie, c'est ça que Marcel Bolduc a essayé de faire. En 2001, il a déménagé de Sherbrooke à Drummondville pour justement essayer d'avoir un nouveau départ. Mais il a continué, bien sûr, d'être vraiment très, 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 très impliqué dans toutes les questions qui touchent la protection des femmes et la sécurité des femmes. Très tristement, en 2022, Julie Bolduc, la sœur d'Isabelle, est décédée d'un anévrisme. Elle avait 44 ans. Fait que c'est une autre épreuve difficile à endurer pour cette famille-là qui a déjà tellement souffert. Et malgré tout, Marcel Bolduc continue à militer. Il s'implique dans l'AFPAD et se présente à toutes les audiences de permission de libération, de sortie, blabla, des meurtriers de sa fille qu'il appelle les individus. Pour eux, c'est comme...
Il les nomme même pas.
C'est pas des personnes, c'est pas des hommes, c'est ça. En 2019, dans une entrevue à Radio-Canada, il a dit « J'aimerais bien mener une fin de vie tranquille, mais je sais que je ne peux pas m'arrêter. Je m'impliquerai encore et encore dans la cause des violences faites aux femmes, des abus sexuels, de l'égalité des humains. J'ai 69, presque 70 ans, et je me dis que je suis content d'être rendu là, il m'en reste moins à faire. Si je peux encore aider qu'une seule personne, pour moi, ça va être une grande satisfaction. » Et quand l'intervieweur lui a demandé en conclusion s'il pensait que sa fille Isabelle serait fière de lui, il a répondu humblement « Peut-être, j'espère. » Et c'est ainsi que se termine l'histoire du meurtre d'Isabelle Bolduc. Moi, je pense que oui.
Oui.
Moi, je pense qu'Isabelle, elle serait vraiment fière de vous, Monsieur Bolduc.
En tout cas, nous, on est fiers de vous.
Moi, ça m'a brisé le cœur. J'étais comment? Je me demande ce qu'il a fait par la suite, Marcel Bolduc. Puis je suis tombée sur cet article, puis j'ai pleuré tout le long. Là. C'est vraiment triste. Il s'est impliqué dans plein d'affaires. Puis il y avait aussi une autre question. Pendant une des audiences de... Ça, c'est un peu plus controversé, mais je veux dire, je comprends son argument à lui. Dans une des audiences de Jean-Paul Bainbridge, justement, qui était d'ascendance autochtone, ben, qu'il l'est encore, je veux dire, il est encore en vie, puis il est encore en prison, ben, il avait demandé à faire des prières, puis ça avait été permis pendant un de ses comités, tu sais. Puis Marcel Bolduc était comme, ben, on n'a pas le droit de faire des prières catholiques, mettons. Fait que, pourquoi on aurait le droit de faire des prières en général? Fait qu'il a milité beaucoup pour la laïcité. Ça aussi, c'est des affaires qu'il a fait énormément d'efforts, puis les réformes n'ont pas eu lieu, tu sais. Mais il veut continuer de s'impliquer quand même, parce que c'est des choses qui lui tiennent à cœur. La manière dont les services correctionnels fonctionnent, la sécurité des femmes, la justice, l'égalité dans la société en général. C'est ça.
Mais là, tu m'as comme mis la puce à l'oreille, puis moi aussi, j'ai le goût que, pour mon prochain cas, de parler de services correctionnels qui font n'importe quoi. Et qui ferait aussi un bon two-parter.
Oui.
Oui.
Je t'ai-tu convaincue?
Ben, je suis pas contre. Je suis pas contre. Je suis juste comme... Il y a certains cas que je suis un peu comme... je sais pas à quel point ça pourrait s'adapter à ce format-là, mais tu sais, je suis pas contre d'essayer ça. Mm. Je suis très open, moi.
Mais c'est pas
amour libre.
Mais regarde, on verra ce que les gens disent.
Oui, puis on va voir
quand le peuple va avoir parlé, on verra.
Ce que nos auditeurs vont dire.
Oui.
Alors, merci. Chers auditoristes, d'avoir été avec nous.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, on espère que ça vous a plu.
Intéressé.
Et
vous avez trouvé ça pertinent et digeste.
Voilà. Je sais comme pas quel adjectif utiliser. On espère que vous avez trouvé ça intéressant. Voilà, c'est bon ça. On va aller avec ça. Alors, si vous voulez en savoir plus sur nous, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime, sur Instagram, @unpeudecrime, dans ton café. Nous avons un Patreon si vous aimeriez nous soutenir sur le plan financier. Il y a différentes tiers pour lesquelles vous pouvez vous abonner qui ont chacun leurs avantages. Et sachez que quand vous êtes sur Patreon, peu importe le tiers auquel vous vous abonnez, vous avez accès à nos épisodes sans les pauses publicitaires. Nous allons saluer nos nouveaux Patreons.
Mm-hmm.
Alors, merci Marianne V.
Merci, je m'excuse de la prononciation. Maïwen M.
Merci.
J'espère que c'est ça.
Merci Lydia Fleury.
Ah, oh, merci Delphine, ça je suis capable de le prononcer.
Merci Mélanie Olsen.
Et merci Ariel F. Paquette.
Alors, on espère que vous aimez vos nouveaux avantages sociaux.
Oui.
Et n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Discord.
Toutes vos assurances.
Oui, ah, c'est fun, vous avez des nouvelles lunettes.
L'assurance chômage, tout
hey,
ça.
C'est beau
tout
ça.
Tout ça qu'on offre sur Patreon, c'est bizarre.
Exactement.
Mm-hmm. Alors... Le Patreon du gouvernement du Québec. À 5$ par mois pour avoir plus d'avantages sociaux.
Arrête, les États-Unis seraient tellement l'argent Patreon des services de santé.
Ben écoute, c'est quasiment ça qu'ils ont avec les compagnies d'assurance.
Exactement.
Voilà.
Alors, aussi, si vous êtes sur Patreon, nous vous saluons parce que vous êtes vraiment chouette à discuter avec et on vous aime beaucoup et on pense à vous.
Je veux dire, vous êtes chouette et chouette, mais oui. Non, cet adjectif nous
fonctionne. Vous êtes chou et chouette.
Vous êtes chou et chouette.
Alors, sur ce, oui. On vous dit à...
Adieu!
À la semaine prochaine!
À dans deux... Oui, à la semaine prochaine, vu que moi, les deux miens vont être collés.
C'est ça.
Fait que vous êtes chanceux, parce que là, vous avez comme trois semaines d'affilée de crime.
Vous êtes gâtés, OK! Alors, pour ceux et celles qui ne veulent rien savoir de cinquième rang...
Ah, je me rencontre encore cinquième rang!
Cool! Ben là, t'es partie sur une chire!
Ben là, je suis partie sur une chire, c'est effrayant!
Fait que, ceux qui ne veulent pas écouter des histoires de fermiers,
ouais.
On vous dit adios!
Mon Dieu!
Pour ceux et celles qui veulent des histoires de fermiers,
on vous dit gracias!
On vous dit hasta luego!
Non, pas hasta luego!
Ben oui, c'est à bientôt!
Ah, ok, excusez-moi! Que... J'étais comme non, on va les revoir tout de suite!
Ben oui, c'est ça, là, tout de suite!
Okay. Yeehaw!
Musique de banjo! Yeehaw!
Fait que aujourd'hui,
ouais.
M'a compté
ouais.
Un petit peu des réponses de qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Guy Bob, le père de Siffleux, qui
oh, wow.
Est mort dans la soie à cochon. Et aussi, je vais commencer à te parler du crime organisé qui apparemment règne sur la petite ville de Saint-Patantagos-des-Meumeux.
Parfait, moi pendant ce temps-là, je fais de la saucisse avec la bouette.
Avec des bouts de chair humaine.
Exactement.
Ah, oh, c'est bon ça. Donc, éventuellement, la police... pas mal incompétente du coin.
La police au singulier.
C'est une police.
Oui.
Oui. Au j'ai singulier. Même pas chanté « Bonjour la police ».
Ben, t'étais pas obligée.
Dans notre autre épisode. Je sais, mais après ça, je l'avais dans la tête. Fait que j'ai passé comme une grosse journée à juste écouter comme « Bonjour la police », puis « Arrête de boire », puis « I want to pong ». Puis ça rend rap. C'est à peu près ça. Puis après ça, je me tannais d'écouter du RBO. Puis j'allais faire d'autres choses.
Puis là, ton fils, une heure après, j'étais comme « Passe-partout ».
Ouais, passe-partout. Fait que, oui... Papillons. J'ai aussi appris que je connaissais pas les paroles de la chanson des légumes grâce aux gens sur Patreon. Fait que... ben oui, mais là, je suis comme... Bon, il y en a que je connais,
j'ai appris que j'étais vraiment ignore de la compagnie créole.
Je peux vous chanter toute la chanson de Bedonden. Ça, c'est correct, je vais peut-être pas me tromper en la chantant. Mais l'affaire des légumes, c'est trop compliqué. Fait que, bref, on apprend que...
Les légumes, c'est trop compliqué. Il y en a trop.
Mais il y en a plein! Il parle des patates, puis des carottes, puis les navets, puis la laitue, puis les tomates, puis les poivrons, puis je veux dire, il y en a plein! Pis les pommes de terre. Non, mais c'est ça. Il y en a tout plein qui nomment Anton, là. C'est super long. Fait que, bref. En tout cas, c'était pas de ça que je parlais pantoute. Je parlais de la mafia qui run 5 ouais. Murmurs. Pis la police, la police au singulier, qui finit par réaliser que réaliser est un anglicisme.
Mm-hmm.
Pis ils passent une couple de jours à juste regarder le site de la vitrine linguistique. Ils sont comme...
Ça fait chier par le site de la vitrine linguistique.
Voilà. Mais là, non, ils finissent par s'apercevoir que Jean-Guy Bob...
Il s'appelle-tu Jean-Guy Bob ou c'est toi qui s'amuse?
Non, il s'appelle pas Jean-Guy Bob. Ok, attends, on va trouver son nom.
Tu peux considérer de l'appeler Jean-Guy Bob? Je sais juste que ça, c'est
pas... Ben, c'est le nom que j'ai trouvé pour lui. C'est comme Marie Gatepoche, bon. Fait que, tiens, on va trouver son nom. Mais je vais continuer à parler en même temps. Donc, Jean-Guy Bob, on a appris qu'il avait des liens avec le crime organisé.
Oh my God!
Et il me semble que c'était des affaires de trafic de drogue. Fait que... Il avait comme un sideline.
Il cachait de la drogue dans ses cochons.
Non, il cachait de la drogue dans ses camps de chasse.
Oh.
Où il allait faire le party avec son ami. Mais là, apparemment, François Papineau, il était pas au courant qu'il y avait tout ça qui se passait. C'est juste.
Mon Dieu, j'ignorais la présence de toute cette cocaïne.
Ouais, je n'étais pas au courant de toute la cocaïne cachée en dessous du tapis dans notre plan.
Ah, oh, c'est pour ça que le tapis a cette forme-là.
Ah, ben oui, je comprends. Bon, là, je trouve pas sa photo vite. Ah, il s'appelait Guy.
T'étais pas loin.
Il s'appelait Guy Bérubé.
Ah, oh, t'étais bon. Pas loin.
J'étais vraiment pas loin. Donc, Guy faisait affaire avec le crime organisé. Et apparemment, ben, sa mort, ce serait pas une mort accidentelle de « il était saoul, puis il s'est enfargé dans ses galoches, puis il tombait à pleine face dans le champ, puis s'est fait manger par ses cochons », mais bien qu'il avait été tué par le crime organisé. Puis là, il y a comme un des gars du crime organisé, que là, l'étau est en train de se resserrer. Fait que là, comme tout bon criminel, un petit peu comme Marcel Blanchette dans cette histoire... Il pète une fuse, puis il kidnappe Maude Guérin.
OK.
Il l'amène dans son bunker souterrain. Puis là, à un moment donné, il coupe comme l'oxygène. Tu sais, il n'y a plus d'air qui rentre dans le bunker. tu sais. Fait que là, on sait que ses heures sont comptées, là, puis faut que la police la retrouve vite, là.
Qu'est-ce
puis là,
c'est...
pendant ce temps-là, il part à courir dans le bois, puis il se fait tuer par François Papineau puis Réginald. Mais ça n'a pas rapport avec les patchs de fentanyl. Laissez-moi vous conter l'histoire des patchs de fentanyl. Je vais juste laisser ça comme ça, ça plane.
Ah, oh, OK.
C'est correct, la police trouve Maud Guérin. C'est le personnage principal de l'histoire, elle va pas mourir, on le sait. Bon. Pendant ce temps-là...
Luc Diane qui te regarde.
Mais là, quand que... quand que la police commence à enquêter du côté du crime organisé, là, tout à coup, il y a comme un gars lié au crime organisé qui est retrouvé dans un char, puis il est mort, puis il y a comme genre 45 patchs de fentanyl dans le dos. Puis c'est comme, je me demande ce qui s'est passé.
C'est une nouvelle forme de thérapie.
Est-ce que c'est une overdose accidentelle de 45 patchs de fentanyl dans le dos? Mais ça m'arrive si souvent de faire
comme la
une
madame
erreur
qui
oubliait
ses verres de contact dans le stade, il oubliait qu'il y avait déjà un patch de fentanyl.
Il avait oublié, puis il en mettait un autre. Puis la voisine, il a oublié, puis il en mettait un autre. Mais tu te rendrais pas à 45, tu mourrais bien avant ça. Ouais. Fait qu'en tout cas. Là, quand ils réalisent ça, ils sont comme « Mais d'où ça vient, cette fentanyl? On est à 5 clin-clin des murmures. Qu'est-ce qui se passe? » Et ils réalisent qu'ils s'aperçoivent...
C'est fugueuse, ça s'est rendu jusque-là.
Non, c'est pas fugueuse, OK?
OK!
C'est pas fugueuse. Okay. Ils s'aperçoivent que le stock de fentanyl du vétérinaire est en train de baisser dramatiquement. Puis là, qui travaille au vétérinaire? Kim, la fille de Guy! Qui a possiblement été tuée par le crime organisé? Est-ce qu'elle a volé du fentanyl pour tuer quelqu'un du crime organisé? Ah! La réponse est, m'en rappelle pas. Mais il me semble qu'elle avait rien à voir là-dedans, puis qu'en fait, c'est son chum qui volait du fentanyl pour le dealer. Fait que c'est pas lui qui avait tué le gars, mais il volait des patchs de fentanyl à la clinique de vétérinaire. Puis son chum s'appelle Jean-Michel.
Parce que tout le monde le sait de stats que tu commences par prendre la pinotte, puis la semaine d'après, tu colle des patchs de fentanyl sur le chest.
C'est vrai que c'est ça qui se passe. Au début, je pensais que tu parlais de District 31. J'étais comme quoi? Oui, non, c'est vrai. C'est ça qui arrivait à la figure.
Oui.
Ouais, c'est vrai. Fait que c'est pas mal dans cet enfer-là qu'était sombré le chum de Kim. Mais là, non. À cause de ça, la police était sûre que Kim avait quelque chose à voir là-dedans. Qu'elle était une grande criminelle internationale, comme son père, Guy, Jean-Guy.
Grand chef bandit.
Qu'elle était une grande chef bandit, comme son père, qui était un grand chef bandit, mais personne ne s'en doutait, même pas son meilleur ami. T'sais?
Il était talentueux à ce point-là.
Mais finalement, elle avait rien à voir là-dedans. Mais avec toutes ces affaires-là qui se passent, là, un gars du crime organisé se fait tirer dans le bois par François Papineau puis Réginald.
Il essayait de tuer un écureuil.
Un autre gars du crime organisé se fait tuer avec des patchs de fentanyl dans le dos. Là, le crime organisé débarque en ville. Puis le crime organisé, c'est des Italiens.
Of course.
Qui sont tous interprétés par des comédiens qui sont pas italiens pantoute. Et
ciao. Ils
viennent s'établir dans un garage.
Ils n'ont même pas demandé à Mathieu Bourron.
Non, ils n'ont pas demandé.
Je t'occupais à bâtir des valets!
Il y en avait un qui s'appelait... Il y avait un des gars du crime organisé qui s'appelait Luca.
Of course.
Luca. Je ne me rappelle pas comment
Luca Parmigiano.
Mais c'est ça. T'sais, le crime organisé, ils font une offre à un autre personnage random qui est le chum de Sonia Vachon. Sonia Vachon aussi est dans l'émission.
Ah ben oui.
C'est la sœur à François Papineau.
Of course.
Son chum, il a un garage. Puis là, le crime organisé veut acheter son garage pour avoir une business, tu sais... D'où pouvoir opérer dans la ville, à Saint-Clin-Clin des Murmures.
Oh oui, on est parti de l'Italie pour s'ouvrir un garage. Hein, c'est vraiment legit.
À Saint-Clin-Clin des Murmures.
C'est ça, c'est vraiment beau. Ça me fait penser à Milano.
Alors là, la mafia est officiellement arrivée en ville. Et là, Maud Guérin, pendant ce temps-là, dit « Je m'en sacre que mon mari dealait avec le crime organisé. Je ne veux rien savoir. »
Du crime organisé.
« I don't want to know anything. » Non, 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 non.
« I don't want to pogne. »
Non, « I don't want to pogne. » OK. Puis, malgré elle, elle va se retrouver avec un bras dans le tordeur. Puis je vais peut-être vous conter ça la prochaine fois si j'oublie pas. Yeehaw!
Yeehaw!
C'est pas payé jusqu'à là, t'aimes-tu ça, 5e rang?
Ouais, je suis malade.
C'est malade.
Tu m'as fait regarder quoi, 2 épisodes?
Non, ça c'est genre 3 saisons, là. La fin de son kidnapping,
non, mais
c'est
à un moment
finale.
Donné, je suis venue ici, puis tu m'as fait regarder comme 2 épisodes.
Ouais, je t'en ai fait regarder. Mais c'est ça, là, je t'ai résumé des affaires qui se passent sur comme 3 saisons différentes, puis...
Mais j'ai l'impression que comme...
C'est comme... Aussi, l'affaire du gars qui avait kidnappé Maud Guérin, ben, je me rappelle qu'il y avait comme quelqu'un qui finissait par comme le kidnapper. Il me semble que c'était genre ses filles qui le kidnappaient. Puis là, il finissait par se faire tuer. Puis à cause de ça, ben, la mafia était comme « Oh my God! » Maud Guérin a kidnappé un de nos gars, puis elle l'a torturé. Pour qui est-ce qu'elle se prend, elle? Pour une mafiosa? Mais il y a déjà une madame mafiosa, fait qu'elle s'est emmenassée. Fait que là, c'est comme ça que Maud Guérin se ramasse le bras dans le tordeur. Mais c'était elle qui s'est fait kidnapper puis emmener dans un bunker souterrain. Fait que, comme, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, Ouf, ouf.
J'ai l'impression que quand toi puis moi, on raconte des téléromans, on les oversell. Puis les gens, ils regardent, ils sont comme, c'est pas aussi divertissant.
Ben, c'est parce que je viens de te compter en genre 3 minutes ce qui se passe en 3 saisons. Là. Fait c'est que j'ai skippé toutes les scènes où il se passe rien d'intéressant. Puis à travers tout ça, la chose dont tout le monde se sacre, puis que tout le long, je me demandais pourquoi c'est dans l'émission, ça, il y a tout un plotline de meurtriers en série. Des années 80.
Ouais, non.
Qui aurait pas simplement tué la mère originale. Puis ça spanne genre 4 saisons. C'est vraiment... C'est complètement insane comme émission. Je sais pas c'est qui a écrit ça, là. Mais en tout cas, il en filme du bon.
La laitue de Lucifer.
Tout mon respect. Fait que sur ce, chers auditeurs, yeehaw.
Yeehaw!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.